cette conférence, elle sert à faire le point, 1 an et 4 mois après l'entrée en vigueur du traité sur le commerce des armes. Et donc, elle doit permettre aux États parties et signataires de pouvoir discuter sur les progrès et les difficultés, notamment dans la mise en œuvre du traité.
Et parmi les difficultés, il y a notamment des grands absents qui n'ont pas ratifié toujours ce traité.
On peut regretter l'absence de gros poids lourds du commerce international des armes, notamment l'Arabie Saoudite, le Canada, la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Pakistan et la Russie. Mais on peut tout de même déjà se réjouir que près de 85 États parmi les 194 membres des Nations Unies sont États parties du traité.
Malgré l'entrée en vigueur de ce traité, le commerce des armes a connu des bonds assez impressionnants ces dernières années.
Oui, depuis l'entrée en vigueur, donc l'entrée en vigueur du traité n'a pas réduit les transferts d'armes vers des zones de conflit ou vers des États qui sont en guerre.
À quoi s'engagent les États qui ratifient alors ce traité ?
Concrètement, le traité appelle les États à mettre en place un régime national de contrôle des transferts d'armes qui soit efficace et transparent. Et le traité vise à promouvoir l'action responsable des États parties dans le domaine du commerce des armes et à ainsi adresser le rôle que ces armes jouent dans les conflits et l'insécurité qui affectent de nombreuses populations civiles du monde, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient.
Mais quand on sait les bénéfices, les rentrées d'argent que ça génère, quel est l'intérêt pour des États pas forcément très démocratiques et qui profitent parfois directement de conflits persistants à ratifier ce texte ou à le mettre en œuvre?
Ben c'est là toute la difficulté et un des principaux défis de ce jeune traité, c'est son universalisation. Donc c'est d'encourager des nouvelles signatures et des nouvelles ratifications afin que le traité et sa contribution à la paix et la sécurité deviennent réellement universels. Mais c'est certain que pour certains pays et certains acteurs du commerce international, ça reste un défi important.
Parce que, y compris les États parties, n'ont pas tous réussi à publier le rapport annuel qui s'était engagé à publier.
Voilà, exactement. Ça, c'est un regret qu'on peut avoir. Donc le rapport annuel doit permettre aux États de rapporter les différents transferts d'armes, exportation et importation d'armes dans leur pays sur l'année précédente. Donc c'est un outil de transparence extrêmement important qui doit non seulement permettre aux États parties de savoir quels sont le niveau de transfert d'armes dans leur région, mais c'est également un moyen de responsabiliser les États et de leur demander des comptes si des transferts peuvent être éventuellement jugés irresponsables au regard des dispositions du traité.
Sauf que ce n'est pas un traité coercitif, il n'y a pas de sanctions prévues en cas de violation des engagements pris.
Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de disposition et de mécanisme pour punir des violations des dispositions du traité.
Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Est-ce que les États signataires seraient prêts à s'engager sur ce genre de dispositif?
Il n'y a pas beaucoup d'espoir que des mécanismes contraignants soient mis en place. Ça va être de la bonne volonté des États et les États doivent montrer qu'ils s'engagent à appliquer de manière honnête et efficace les dispositions du traité.
Et dans votre note publiée au GRIP, vous évoquez le fameux name and shame qui prévaut dans de nombreux domaines où on n'arrive pas à prendre des sanctions, par exemple les industries extractives pour contrôler les mines et le respect de certains standards ou d'autres engagements internationaux comme ça qui en fait misent davantage sur le fait que quelqu'un qui a pris un engagement qu'il ne respecterait pas devrait avoir honte d'avoir pris cet engagement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui impressionne les États ou les grandes industries, notamment dans le domaine de l'armement?
Parfois, on peut sous-estimer le fait que les États font attention à leur réputation au niveau international. Et donc, quand des transferts d'armes sont rendus publics et font la une des journaux et qu'il y a une pression et une mobilisation citoyenne, cela peut exercer une réelle pression sur les États. Donc, il ne faut pas sous-estimer la puissance du name and shame, mais aussi être réaliste sur sa portée possible et sur l'influence que ça peut avoir sur les comportements actuels des États. Après, il y a des actions qui sont prises au niveau national dans de nombreux pays. On peut prendre l'exemple du Royaume-Uni où des organisations ont demandé à ce que les les décisions prises par le gouvernement en termes d'exportation d'armes, notamment vers l'Arabie Saoudite, que la justice s'empare de ces décisions-là pour voir leur légalité par rapport aux législations nationales et notamment aux législations régionales et internationales telles que le TCA et les règles européennes.
Oui, mais l'Arabie Saoudite, justement, c'est un bon exemple, ou le Qatar aussi. On sait que ce sont des États qui soutiennent des mouvements armés non conventionnels. Pourtant, ce sont des États avec lesquels les pays occidentaux continuent d'avoir des relations diplomatiques et commerciales. Donc, est-ce que c'est pas compliqué de renoncer à livrer des armes à un pays avec lequel, par ailleurs, on entretient de bonnes relations?
Ça demande du courage politique, effectivement. Mais voilà, on a un traité qui est là. Il faut appeler à son universalisation pour qu'un maximum de pays en fasse partie, notamment les gros commerçants d'armes, et puis qu'il soit mis en œuvre et que les États s'engagent à respecter de manière honnête les dispositions du TCA. Donc ça va être un travail de longue haleine pour que les États entre eux partagent les bonnes pratiques et que la société civile continue à pousser les États à respecter leurs engagements.